Eh bien oui, nouveau numéro de Par ici est sorti, un numéro un peu spécial encore aujourd'hui puisque nous irons voir ce qui se fait de mieux et nous informer un peu de l'état de santé des labels français avec notamment le label Plus Loin Musique. Mais avant cela, eh bien comme tous les jours, nous retrouvons notre album coup de cœur de la semaine, celui donc du bassiste Jean-Louis Racinfos avec donc Fabrice Salman qui est soit à la flûte, soit aux différents saxes, Jean-Philippe Collard-Neven qui lui est au piano et Xavier Desandres Navarre à la batterie pour une composition donc de Fabrice Alemann qui a pour titre tout simplement Meetings avec un S, les rencontres. donc notre coup de cœur de la semaine, Braining Storm, l'album paru chez Fuga Libera. L'album donc du contrebassiste Jean-Louis Racinfosse, plus ses trois compères, avec ce thème Meetings. On va, comme je l'avais indiqué, donc aller faire un tour du côté des labels français. Et on va commencer peut-être par celui qui est à la fois le plus prolifique quant à la quantité de production et également quant à la qualité de production. C'est dans le label Plus Loin Musique. On va commencer par un extrait d'un album qui, moi, m'a particulièrement plu. C'est l'album de Patrick Artero qui a pour titre Vaudou, dont il est paru évidemment chez Plus Loin Musique. Et on va écouter ce thème Alligator Bougalou. C'était donc extrait de l'album de Patrick Artero Vaudou, paru chez Plus Loin Musique, le thème Alligator Bougalou. Et nous sommes en train de tenter de joindre désespérément M. Yann Martin, qui est le label manager donc, de ce fabuleux label. Un label, peut-on le dire, qui regroupe les grandes têtes d'affiche à la fois du jazz français et même international. Un label sur lequel vous pouvez trouver Elisabeth Contomanou, Pierrick Pedron, Patrick Artero, Tigran Amassian. Donc vraiment quelque chose de lourd, comme on dit chez nous. Monsieur Yann Martin, bonsoir.
Oh, je vous entends très très mal.
Vous m'entendez très mal.
Ah oui.
Ça va un peu mieux ?
Ouais, vous êtes assez loin quand même.
Je suis loin. Pourtant, ouais. je suis la bouche dans le micro.
Ouais, mais j'entends absolument pas.
Attendez, on va essayer d'améliorer ça. Là, ça va mieux?
Ouais, si je me concentre franchement, parce que...
Ah bon?
Ah, là, c'est mieux.
C'est mieux?
Oui, vous pouvez faire un peu plus fort encore ou pas?
On va essayer de faire un peu plus fort, je vais parler plus fort. C'est bon, là?
Oui, là, c'est bien, ouais.
Là, c'est bien. Ouais. Donc, je disais que vous êtes un des labels à la fois les plus prolifiques, on peut dire à la fois en quantité et en qualité, surtout, parce que vous nous avez permis, à nos auditeurs et à tous les amateurs de jazz, de découvrir vraiment des grands et des grands. On peut dire que grâce à vous, on peut connaître Pierry Prédon, on peut connaître Elisabeth Contomanou, Tigran Amassian, j'en passe et des meilleurs.
Avishai Cohen.
Oui, Avishai Cohen, c'est vrai. Votre catalogue est tellement riche qu'on a du mal vraiment à se souvenir de tout ce que vous avez pu enregistrer. Et moi, j'ai une question à vous poser, monsieur Martin, à savoir, comment devient-on label manager?
Oh, c'est... une histoire de rencontre, c'est un parcours de vie, c'est toujours très étrange. À titre personnel, je pense que j'étais pas du tout destiné à faire ça, comme plein de personnes passionnées qui font plein de choses et qui commencent par une autre aventure. Moi, je viens de la musique classique, j'étais oboïste, et puis par biais successifs, je suis rentré dans l'édition.
Oui.
À l'époque, je travaillais pour Mediaset.
Ah oui, de mon ami Bruno Théol.
Voilà, tout à fait. Et puis, il s'avère que, voilà, qu'à un moment donné, on découvre un genre de musique autre. Parce que je dois avouer que le jazz, je le connaissais très très mal. Hein. Moi, je venais vraiment de la musique classique. Mm-hmm. Par contre, là, j'étais une énorme pointure, comme on dit dans le jargon.
Ah oui.
Et puis, voilà, j'ai pris tellement de plaisir... à connaître cette musique, parce que c'était aussi une musique actuelle, c'était des jeunes artistes, il y avait plein de courants aux quatre coins de la planète. Et voilà, je me suis passionné de cette musique, et puis je commençais à avoir beaucoup de métiers dans l'industrie du disque, et j'ai décidé d'être producteur. En fait, c'est toujours les mêmes histoires, c'est on est passionné, et puis on va jusqu'au bout.
Votre premier album, ça aurait peut-être pas le meilleur, mais le plus grand souvenir, sans doute.
Alors, le premier album, si, c'est un magnifique album. C'était Antoine Hervé en trio,
oui.
Summertime avec les frères Moutin, donc ça commençait déjà plutôt bien, on va
ça
dire.
Ça commençait bien, oui, parce que là, quand même, avec les frères Moutin, maintenant, ils font partie intégrante de votre catalogue, on peut dire.
Bien sûr.
Et outre les albums que vous avez produits, où ils sont en qualité de leader, ils sont souvent, on peut dire comme ça, en qualité de sideman, et quel sideman hein?
On peut même dire que c'est la section rythmique en France.
Oui, c'est vrai. C'est pourtant vrai. Et quelquefois, vous leur avez ajouté Harry Cunning aussi. C'est pas mal non plus comme batteur.
Bien sûr, hein. magnifique batteur. Hein?
Non, je pense que vous avez vraiment une sélection d'artistes quand même, on va dire, chevronnée aujourd'hui.
Aujourd'hui, c'est en effet un catalogue important parce qu'il y a beaucoup d'artistes très importants sur la scène française et puis sur la scène internationale. Et puis que tout simplement, ce sont des rencontres. Les artistes amènent les artistes, hein, mm-hmm. également.
Oui, votre dernière rentrée, si je puis dire, c'est Anne Ducrot, quand même.
Voilà, Anne, c'est un bon exemple. Anne, elle regarde le label plus loin depuis plusieurs années.
Oui, elle était précédemment.
Elle a vu les réussites d'Elisabeth et d'autres grands artistes, et puis des amis aussi qu'elle avait dans la maison. Et donc, à un moment donné, elle se dit, bah tiens, pourquoi pas. Pourquoi pas moi chez Plus Loin, parce que c'est une maison qui est jeune, qui est dynamique, et donc il y a toute raison d'y croire.
Oui, mais il faut dire que vous l'avez gâté, parce que vous l'avez offert un sacré big band à côté. Hein.
Alors c'est plus compliqué que ça. Oui, dans la mesure où Anne a conçu son album au préalable, avec des amis.
Du Nord, comme elle dit si bien.
Exactement. Avec Philippe, le chef d'orchestre, qui est vraiment un vieil ami. Et donc là, c'est presque une histoire de ch'ti, c'est une histoire de famille.
Oui.
Et donc, quand il y a une histoire de famille, c'est toujours plus simple à construire.
Mais
pour nous, producteurs.
C'est vrai qu'elle a fait un très bel album dans lequel elle a voulu rendre hommage à Ella Fitzgerald, effectivement. Et puis, elle déclare dans une interview aussi qu'elle est contente d'être venue chez vous parce qu'elle dit que vous êtes... il y a beaucoup de folie, elle parle de vous, hein, chez vous, et que vous êtes prêt à tout. Ça vous fait plaisir ou ça vous effraie un peu tout ça?
Il y a de la folie, non, il y a surtout de la conviction. Je pense que, enfin, moi, je fais partie des gens qui, d'abord, aiment la musique et le talent. C'est peut-être pour ça aussi qu'on en est là aujourd'hui, c'est que les talents sont bienvenus dans cette petite maison, parce qu'on reste quand même à une échelle très artisanale, hein. Nous sommes une petite maison. Et donc en effet, les artistes, il y a un effet de miroir, très simple. Et quand ils rentrent dans une maison comme la nôtre, où il y a beaucoup de convictions et qu'ils sont bienvenus, ils vous renvoient cet effet de miroir. Donc ils en sont extrêmement heureux, surtout. Et un artiste qui est heureux, c'est un artiste qui va sublimer son talent, si je peux m'exprimer ainsi.
On va écouter donc ce grand talent avec un extrait de cet album qui a pour titre « Ella My Dear », avec notamment le titre d'ouverture de l'album « It Don't Mean Nothing ». On va commencer par ça, mais je voudrais quand même, moi, avant qu'on en arrive là, vous demander un peu quelle est la situation, d'après vous, du disque en France, du CD en France, on va dire, parce qu'on nous raconte tellement de malheurs qu'on est toujours un peu inquiet, et je pense que vous êtes, vous, plus à même de nous informer un peu de la situation, quand même.
Moi, je vais vous le dire très simplement, qu'est-ce que vous souhaitiez que je sois ? Optimiste ou réaliste ?
Réaliste, réaliste.
Réaliste,
oui.
La situation est purement catastrophique.
Oui.
Voilà. Grosso modo, nous vendons actuellement dans l'industrie du disque, y compris dans le jazz, alors que l'on nous parle du téléchargement illégal, etc.
Oui.
Etc. Enfin, tout ça, on se sent assez peu concerné. En réalité, nous vendons aujourd'hui deux fois moins de disques qu'il y a 5 à 10 ans. Ce qui pose un véritable souci économique.
Oui, bien sûr.
Dans la mesure où les productions, même si chacun a essayé de baisser ses tarifs, quand je dis chacun, c'est l'ingénieur du son, le studio, etc., etc. Même les musiciens ont fait aussi beaucoup d'efforts. Nous sommes dans une situation assez catastrophique, dans la mesure où les ventes ne sont plus en adéquation avec les coûts de production. La réalité, c'est quoi au final? C'est qu'il y aura de moins en moins de productions, ou de moins en moins de bonnes productions et de belles, très belles productions, et qu'on est dans un phénomène d'entonnoir. Donc les jeunes artistes, par exemple, auront de moins en moins
de possibilités
de s'exprimer, parce qu'en fait, c'est ça le vrai souci.
Bien sûr.
Et là, je le dis avec certitude, parce que Plus Loin a fait aussi sa réputation à travers les nouveaux talents. On parlait tout à l'heure d'Avishai Cohen, de Tigran Amassian, d'artistes comme ça, que personne ne connaissait il y a 5 ans et qui sont aujourd'hui des stars,
des têtes d'affiche,
dire,
oui.
Internationales. C'est clair que ça devient très difficile demain de profiler des artistes de ce genre, parce que ça coûte beaucoup d'argent, parce que c'est quand même du temps, et puis tout simplement parce que le marché ne le permet pas. Alors le marché, c'est beaucoup de choses, hein. C'est évidemment la distribution, il y a un gros souci de distribution au niveau mondial, au niveau national, même à Montpellier, il y a un problème de distribution.
Ah oui, parce que le magasin Harmonia Mundi a fermé. Oui.
Et les magasins, il faut bien le dire, sont de moins en moins compétents, ça c'est un fait.
Mais oui, vous le savez sans doute, je disais donc que même ici, le magasin appartenant à Harmonia Mundi vient de fermer.
Bien sûr.
Ce qui est pour
oui,
Montpellier qui a mis une catastrophe. Les gens s'en plaignent énormément, même le responsable de la culture à Montpellier s'en plaint. Je crois même qu'il a écrit directement
à Eva Koutaz.
Oui, pour lui faire savoir qu'il n'était pas très satisfait de sa décision.
Eva Koutaz fait aussi ce qu'elle peut.
Oui.
Dans
oui.
L'économie d'Harmonia Mundi.
Oui, bien sûr, bien sûr.
Et donc c'est sujet à un autre débat, on va dire, beaucoup plus économique. Maintenant, le problème est que l'industrie du disque, à mon sens, a vraiment abusé le consommateur durant une vingtaine d'années. Je ne veux pas dire toute l'industrie du disque, une partie de l'industrie du disque,
oui.
En commençant par les majors compagnies.
Oui.
Qui nous ont fait avaler multiples compilations et de nombreuses rééditions. Enfin bref, je ne vais pas refaire l'histoire, mais une chose est certaine, c'est que les majors compagnies, notamment en installant le disque dans les supermarchés, dans les hypermarchés, à tout va, avec des prix défiant toute concurrence, où il n'y a aucune vision de ce que peut être le support du disque à long terme, est une énorme erreur. Et aujourd'hui, moi je vois une seule chose, c'est que c'est un support qui n'est plus dans l'air du temps, alors qu'il l'était, et alors que le livre l'est encore. Maintenant, on achète un livre, on n'a plus envie d'acheter un disque, et ça, on ne peut pas s'en remettre à la simple jeunesse, notamment concernant le jazz. C'est tout simplement qu'à un moment donné, le consommateur n'a plus réellement confiance envers une industrie, envers les éditeurs. Et ça, c'est un problème nettement plus grave qu'évidemment ni les syndicats, ni personne au ministère ne veut soulever, parce que c'est le problème fondamental.
On va reparler de tout ça après que nous aurons donc écouté Anne Ducrot avec ce « It don't mean nothing ».
Don't mean a thing if it ain't got that swing. Do up, 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 do up. It don't mean a thing. All you've got to do is sing. Do up, 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 do up. It makes no difference if it's sweet or hot. Give that rhythm everything you've got. It don't mean a thing, and you've gotta do a sing. Do up, 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 do up. Swan doop and buff a dap dap sweet it ba a doop it it stood on it mum. Stand up, down, in a bird, da 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 da. Bum, 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 bum. If it's sweet or hot, just give that rhythm everything you've got. It don't mean a thing. All you've gotta do is sing. Do up, 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 do up.
Anne Ducrot, In Don't Mean Nothing, avec l'orchestre de Philippe Langlais. Ça sonne vraiment comme un big band américain.
Ah bah c'est pas un big band, puisque c'est un orchestre d'harmonie.
Oui.
C'est pas la logique française, puisque c'est une vraie logique, en effet, anglo-saxonne. Et cet orchestre est tout simplement magnifique.
Ah oui. Ah oui,
tenu
oui.
Par une main de maître, Philippe Langlais.
Oui.
Et puis, c'est pas dans notre culture. D'ailleurs, la preuve en est, c'est que comme par hasard, cet orchestre, parce qu'il n'est pas question de big band, cet orchestre, il est dans le Nord-Pas-de-Calais, et que le Nord-Pas-de-Calais dit la Belgique, dit l'Allemagne, dit bref les pays du Nord, quoi,
oui. Hein,
de l'Europe. Quoi.
Mais c'est vraiment un très très bel album, parce que... Mais alors, moi je vais vous poser une question à titre personnel. Comment vous, M. Martin, qui êtes label manager, vous décidez la production d'un album ou la non-production d'un album? Parce que vous devez recevoir des centaines, je pense, de ce qu'on appelle de démos. C'est peut-être difficile de dire oui ou de dire non.
C'est terrible. C'est un instant terrible. Après, c'est au-delà de la qualité musicale, sont aussi des rencontres et des artistes qui me touchent, hein, parce qu'on a tous un affect. Et bon, en ce qui concerne Anne, c'est un peu différent, parce que c'était une personne qui existait déjà, qui avait une très très grande réputation en tant qu'artiste, mais bien souvent, il m'arrive de signer des jeunes artistes, et au-delà de leur qualité, c'est évidemment ce que je ressens affectivement, ce qu'on est quand même dans le subjectif, on est dans un domaine artistique.
Oui.
Parce que je sais que je vais bien m'entendre avec eux et que développer un artiste, c'est un grand bout de chemin. C'est une partie de sa vie, de moi-même, de ma vie, et puis de la leur aussi. Donc il n'est pas question qu'on ne s'entende pas et qu'on soit dans le raisonnable. Il faut qu'on soit dans l'affectif. Et à partir de ce moment-là, je pense qu'on peut construire une vraie histoire. Alors ça peut durer 5 ans, ça peut durer 10 ans, des fois ça peut durer bien plus. Hein, mais dans tous les cas, je ne peux pas dissocier l'un de l'autre. C'est la qualité, c'est la musique, c'est le talent, soit, mais c'est aussi l'affect, parce que je n'imagine pas travailler avec un artiste et assurer un certain développement pour sa carrière et son talent sans qu'il y ait vraiment d'affect, très simplement, en fait. C'est un peu comme en famille, vous voyez.
Oui, oui, oui. Moi, j'ai une autre question à vous poser. Par exemple, pour le CD de Yann Savi, vous avez souhaité un format différent. Je parle de la pochette.
Moi, parce que je suis dans un club de jazz à Rennes, vous savez.
Oui.
Et la musique joue déjà fort, parce que Rennes, c'est une ville, une place forte du jazz.
Mais je crois qu'il y a quand même un festival qui mérite quand même qu'on s'y attarde.
On en parlera peut-être plus tard.
D'accord.
Tout à l'heure. Mais donc je suis dans un club, alors il y a beaucoup de bruit autour de moi, il y a beaucoup de musique.
Oui.
Donc excusez-moi, je vais vous demander de répéter votre question. Parce que
je vous disais que pour l'album de Yann Savi, pas Yann Savi, comment il s'appelle, Jean Savi, vous avez souhaité avoir un format de pochette tout à fait différent.
Pour quel artiste? Excusez-moi, je vous ai pas entendu.
Attendez, je ne vous dis pas de bêtises, c'est bien pour lui que vous avez fait une pochette complètement... Thomas Savi.
Ah, pour Thomas.
Oui.
Non, Thomas, c'était un petit peu particulier dans la mesure où c'était le 100e album de la maison.
D'accord. Déjà 100 albums.
Le 100e album. Et donc, quand on arrive au numéro 100 dans un label, c'est vrai que c'est quelque chose qui compte. Parce que c'est 100 productions. Donc, beaucoup d'histoires, beaucoup de travail. Et donc, c'est vrai qu'on voulait un peu marquer l'histoire et donc revenir à un format un peu rigolo qui était celui d'un 45 tours, presque 45 tours on va dire, et c'est pour ça qu'on a fait une pochette particulière pour Thomas à cette époque-là.
D'accord, parce que c'était quelque chose qui me surprenait, j'avais pas pris en considération que c'était votre 100e album.
C'était le 100e album de la maison et c'est vrai que le 100e, dans une maison d'édition, c'est...
Je comprends.
C'est pas un virage parce que la vie continue, mais c'est une petite étape qui est importante. Après le 100e, il y a le 1000e.
Je pense pas que ce soit pour la fin 2011, on va dire, mais enfin,
non,
j'espère que vous irez jusque-là et bien au-delà. Il n'y a pas de raison. Et en parlant de cela, parce que vous avez dû à un moment, pour des raisons, je pense, ou stratégiques ou contraintes, je ne sais pas, de racheter le label Nocturne.
Alors Nocturne, c'est une toute autre histoire puisque j'en étais le cofondateur. Et pour tout vous dire, je travaillais auparavant chez Harmonia Mundi.
Oui.
En tant que directeur commercial. Et puis voilà, j'étais directeur commercial depuis de très nombreuses années. Et ça commençait à me lasser, pour tout vous avouer.
Mm-hmm.
D'où l'idée de créer ma propre maison de disques. Et je n'ai pas trouvé mieux que mon ancien président directeur général, qui était donc Bruno Théol à l'époque,
oui.
De l'époque Mediaset.
Oui, Mediaset à Nanterre. Oui.
Voilà, tout à fait. Et donc Bruno, ça l'a beaucoup amusé. On a monté cette aventure ensemble. Et puis il s'avère que par hasard, parce qu'il y a toujours des hasards dans la vie qui font bien les choses, je me suis retrouvé à la tête de ce label de jazz, ce qui n'était pas du tout prévu initialement. Et puis voilà, à un moment donné, j'ai décidé très simplement de consacrer tout mon temps au jazz et donc à la production et non plus à la distribution, ce qui était quand même un petit peu la mission de cette maison qui s'appelait Nocturne. Et donc j'ai proposé à Bruno, mon associé, de m'en aller. J'ai créé à ce moment-là cette maison plus loin, musique, qu'aujourd'hui les fans de jazz connaissent, et de racheter parallèlement le catalogue de jazz que j'avais d'une certaine manière créé, puisque tous les artistes travaillaient avec moi. Et donc tous les artistes de Nocturne Jazz sont passés sur Plus Loin Musique. Voilà, l'histoire est assez simple, c'est une histoire une fois de plus assez familiale en fait. Ce sont deux amis qui travaillent ensemble, et puis voilà, j'ai pris une direction différente.
Avec deux voies différentes, puisqu'aujourd'hui Bruno, lui, poursuit son aventure avec ses bandes dessinées.
Exactement, et on a travaillé sur les bandes dessinées tous les deux à une époque, et puis c'était son bébé, c'était sa conviction, et donc Bruno, il continue l'aventure, et puis ben, moi, c'était voilà, les artistes de jazz. Très simplement.
Et donc vous allez poursuivre cette aventure dans les années à venir quand même.
Ah oui, bien sûr.
Parce que vous nous avez offert tellement de belles choses qu'on en attend encore d'encore plus belles, on va dire. Et si je peux me permettre...
Il y aura une magnifique programmation, puis l'année suivante encore. En fait, le problème, c'est que je pourrais avoir deux labels, que je ne pourrais même pas signer tout ce que je veux, parce qu'après, c'est évidemment... une question de temps, une question d'énergie, une question de moyens aussi financiers.
Bien sûr.
Il faut avouer que c'est beaucoup d'argent. Mais parallèlement, on se construit différemment. Donc on a monté une maison de booking dans la maison. Pour les auditeurs qui ne savent pas ce que c'est tout simplement, nous sommes une agence de concert pour les artistes. Donc nous représentons les artistes et les vendons auprès des festivals, des théâtres, des scènes nationales. Parce que pour moi, aujourd'hui, on arrive dans une économie tellement industrielle qu'il faut se recroqueviller dans un monde que l'on connaît très bien et donc essayer de faire un peu tous les métiers de ce que l'on connaît, à savoir, nous, on fait de l'édition, on fait de la production, l'édition phonographique. Aujourd'hui, on fait du booking. Donc, ce qu'on appelle par booking, c'est de représenter les artistes et de les vendre auprès des festivals, des scènes de spectacle. Et puis parallèlement, puisque nous sommes à Rennes, nous avons monté un très joli festival.
Ah, parlez-nous-en de ce festival alors, parce que je sens que vous avez envie de nous en parler.
Non, pas forcément, mais ce festival, c'est une aventure comme une autre. En réalité, j'ai monté ce festival dans un lieu mythique à Rennes qui s'appelle l'Étage et le Liberté, qui est en plein centre de Rennes. Et vous êtes à Montpellier, et Rennes a des points communs avec Montpellier d'un point de vue
salle de
urbain.
Parce qu'ici, nous avons le JAM, qui est donc là aussi une très belle salle de jazz, effectivement,
et une école en même temps. Une salle assez mythique en plein centre de Rennes, il y en a une de 5000 et une de 500, et tout ça dans le même bloc, dans le même immeuble, en plein cœur de Rennes. Et donc, moi, l'idée, c'était de monter un festival pour fêter le 100e album de la maison, ce que nous avons fait. Et puis, il s'avère que nous avons été suivis par tous les médias régionaux, nationaux, etc. Et que ce festival va prendre une toute autre ampleur à partir de 2011, en mars 2011. Et que nous allons avoir à Rennes, parce que à Rennes, et les Montpelliérains le savent, parce que ils sont plutôt branchés à Montpellier. Ils connaissent bien l'électro, le rock, enfin bref, toutes les musiques actuelles.
Oui.
Et donc Rennes est un fief des musiques actuelles, comme ils le savent. Il y a notamment les transmusicales, mais il y a plein d'autres festivals. C'est une des grandes villes de festivals, puisqu'il y a 50 festivals à Rennes. Et 55 festivals dans une année, ça fait beaucoup. Mais donc, il y en aura un 56e qui s'appelle Jazz à l'étage, et donc en plein cœur de Rennes. Et qui va se consacrer au jazz, qui est un phénomène nouveau, parce que le jazz avait été un peu ignoré à Rennes, tout comme d'ailleurs à Montpellier, il me semble, parce que mis à part le festival de Radio France et le Jam, il ne se passe pas grand-chose à Montpellier.
Non, c'est un peu ce que déplorent à la fois les artistes et nous-mêmes. On a quand même la chance, on va dire, d'avoir dans d'autres, juste à côté. On a donc le festival Jazz à 7, quand même, qui est à 25
km. Oui, un festival magnifique.
Magnifique,
d'ailleurs,
oui.
Il était cet été.
Ah oui.
Parce que j'avais d'ailleurs un artiste, je dirais, de la famille montpelliéraine qui s'appelle Rémi Panossian.
Oui.
Qui faisait la première partie de Mélodie Gardot.
Vous avez rencontré Louis Martinez, alors qui est mon ami.
Bien sûr, magnifique.
Il vient de sortir un album il n'y a même pas 15 jours.
Martinez ?
Oui, tout à fait.
Ah ben, vous voyez,
oui.
J'apprends tout.
Ben, heureusement, vous m'apprenez tellement de choses, je vous en apprends un peu aussi, c'est normal, c'est un échange de bons procédés, on va dire.
Exactement.
Hein, voilà, ça prouve que le jazz est une petite famille et que les gens passionnés, aussi bien vous que moi et moi, à moindre échelle,
bien,
on essaie de faire vivre cette musique qu'on aime tant.
Exactement.
Écoutez, moi, je suis vraiment ravi de vous avoir au téléphone. Et puis, on parle beaucoup, on oublie un peu de passer de la musique. C'est aussi quand même le but de l'émission. On va donc repasser un deuxième extrait de l'album de Anne Ducrot. Et j'ai choisi donc l'hommage qu'elle a voulu rendre à Ella Fitzgerald et qui est aussi le titre éponyme de l'album. C'est « Ella, my dear ».
Somewhere it's music, I'll fame the tune. Somewhere it's heaven, I'll eye the moon. There is no love above when love is far away too. And till it come through that you love me as I love you. Oh, we de ba de de ma ba we de ba me pe pa du wa pe de du ba ye du we. Oh, de do do ba we de le do. Oh, de do do ba we de du wa. Oh, we de de du wa. Oh, ba pe le du du ma me ye du wa. Le moins qu'on puisse dire, c'est qu'elle a vraiment le swing à fleur de peau, Anne Ducrot. Et Monsieur Martin, moi, si je peux me permettre, je dirais qu'elle le swing aussi facilement que Mel Tormé le faisait.
Ah. C'est la simplicité grâce à une technique totalement imparable, effroyable. Anne, c'est juste la plus grande technique française au niveau vocal. Et puis un swing terrible.
C'est pourtant vrai, hein, on a l'impression que ça sort comme ça, en scat en plus, vraiment, comme le faisait Ella.
C'est la spécialiste, c'est la grande spécialiste, je pense, européenne en la matière. Et tout dans la simplicité, parce que Anne est un personnage un peu plus simple.
Eh bien, j'essaierai de l'avoir au téléphone. On parlera de tout ça en direct avec elle un de ces jours. Et puis, vous parliez de la filiation entre Montpellier et Rennes. Donc, je crois que sans faire de scoop, on peut quand même l'annoncer. Vous m'avez autorisé à le faire. Vous allez donc produire, pour qui se sortira au mois de janvier, un album en trio du pianiste montpelliérain Rémi Panossian. Donc.
Du magnifique pianiste Rémi, que je connais depuis longtemps, avec qui j'avais fait un album en duo avec Julien Dutu. Et puis Rémi, eh bien, comme tous ces musiciens de jazz de talent, j'insiste bien, de talent, c'est une grande personne qui mûrit, qui a monté un trio aujourd'hui et de grande, grande, grande qualité, avec surtout une qualité pianistique exceptionnelle, un swing, une originalité, une grande culture, bref. Et c'est un trio, enfin j'espère qu'à Montpellier, vous ferez les ambassadeurs.
Je me permettrai de lui téléphoner, on fera une émission en direct, je vous le promets, quand l'album sera donc dans les bacs des disquaires.
Vous l'avez l'album.
Je l'ai, moi personnellement, vous l'avez très gentiment envoyé. On va en écouter un extrait avant de se quitter.
Rémi, c'est certainement un des plus grands artistes qui existent dans la moitié du sud de la France, qui doit faire une grande carrière française et internationale. D'ailleurs, sa carrière internationale, il l'a commencé en Asie, notamment. Mais vraiment, pour nous, c'est un grand espoir, parce que au-delà de sa qualité d'être humain, de compositeur, c'est un très grand pianiste, un grand charisme, et quelqu'un qui va progresser énormément dans les années à venir. À ce titre, pour nous, c'est vraiment, comme disent les Américains, un target dans la maison, parce que je pense que vraiment, il peut parler aussi à un autre public, il s'adresse à tous les publics, Rémi, c'est un vrai jazzman, il s'adresse à un public intellectuel, à un public de jeunes gens, il s'adresse aux grands mélomanes, et c'est un grand trio, ils sont passés à 7 cet été, ils ont fait un magnifique
succès, oui, tout à fait.
Et avec toutes les dates qu'ils font les unes derrière les autres, c'est un trio qui va monter en maturité et qui vraiment doit attirer toute l'attention des médias. Et naturellement, après, le public, il en fait ce qu'il veut. C'est normal, le public, il décide. Mais dans tous les cas, je sais que déjà les médias régionaux, nationaux, sont très intéressés par la personnalité et par ce qu'il représente aussi, parce qu'il représente une autre dimension du jazz. C'est une nouvelle génération qui est très simple, qui se prend pas la tête. Il aurait pu faire du rock, il a fait du jazz. Et puis voilà, lui, il fait de la musique, et c'est très simple. Et en même temps, c'est magnifique. Et au niveau de la composition, il y a un gros travail qui mérite une grande attention.
Vous en parlez avec
les médias comme TSF, par exemple, qui est la radio de référence à Paris,
oui.
s'y intéresse vraiment grand chef. Hein. Ils vont jouer à Paris. Nous, on les invite à Rennes dans le cadre de notre festival.
Ah ben oui.
Donc bref.
Je pense qu'on le verra au JAM dans peu de temps. Je ne sais pas, parce que très souvent, le JAM, lorsque des albums sont produits par des musiciens de la région, fort souvent, je dois dire, eh bien, ils les invitent pour qu'ils puissent présenter leur album au public de la région. Par conséquent, je pense qu'il ne faut aucun doute, et j'en parlerai à M. Pfeffer, pour qu'il essaie de le faire venir courant février à ce moment-là.
Je ne sais pas ce qui se passera. Dans tous les cas, une chose est certaine, c'est que évidemment, il y aura une date avec Rémi à Montpellier. J'ose espérer, tout au moins, sinon ce serait renier un des plus grands musiciens.
Non, on va s'y employer.
Et ça, ce serait assez dommage, mais ça peut arriver. Hein.
Oui, tout peut arriver, comme vous dites. Monsieur Martin, on va devoir se quitter. On va se quitter. Vous m'avez autorisé à le diffuser, donc j'ai choisi un morceau qui m'appartient. J'ai choisi le thème Schedule, le programme, donc. Donc, par le Rémi Panossian Trio, il sera dans les bacs des différents magasins de Montpellier. On en a quand même quelques-uns au mois de janvier.
Voilà, fin janvier. Dans les bacs à Montpellier, à Paris et partout ailleurs. En sachant qu'à l'international, après, vous savez, c'est un peu plus compliqué. Donc, je sais qu'en Allemagne, ça se passera au mois de février. En Asie, ce sera au mois de mars, comme aux États-Unis ou au Canada. Enfin, après, chacun a ses principes de commercialisation, comme on dit.
Bien entendu.
Dans tous les cas, c'est pour nous un grand espoir et c'est surtout un bon début de 2011 que d'avoir Rémi Panossian de Montpellier, trio, avec
dans le catalogue
de Marseille
musique.
Et puis de Nice. Parce qu'ils sont, là, on fait une espèce de longueur de la Méditerranée qui est assez amusante. Et pour finir, ils sont tous toulousains aujourd'hui, ils habitent tous à Toulouse. Et donc pour nous, ce sera une grande fierté que de les défendre en début d'année prochaine, parce qu'ils ont du talent, ils sont jeunes, c'est de la musique actuelle. Et je conseille à tous les jeunes gens qui écoutent que du rock, que de la musique électronique, d'aller écouter du jazz, et ils adoreront.
Il n'y a aucun problème. Monsieur Martin,
la fin en ce qui me concerne.
On va donc devoir se quitter. Je tiens à vous remercier de votre extrême complaisance et du long interview que nous avez accordé, en vous promettant que nous ferons tout pour que votre label ait sa place qu'il mérite dans nos différentes émissions. Pour l'instant donc, on se quitte avec Rémi Panossian Trio et le thème Schedule.
Merci. À très bientôt. Merci beaucoup. Bonsoir.
C'était donc en avant-première sur Divergence FM 93.9, le nouvel album qui sera disponible du courant janvier, album du pianiste de Montpellier, dont Rémi Panossian, avec ce thème Schedule. On en reparlera quand l'album sera donc disponible dans les bacs des disquaires. On va continuer avec le label Plus Loin Musique, on va se dépayser un peu avec la musique de David Elmalek, saxophoniste. Il sera ici accompagné par Johan Lustalo à la trompette, Thomas Savy, clarinette basse, Éric Dufay au corps, Denis Leloup, le tromboniste, Didier Harvey, lui également tromboniste, Jules Bicoco, Benjamin à la contrebasse et Daniel Garcia-Bruno, batterie et différents instruments de percussion pour ce thème, le Livre des Rois.
Thank you.
Extrait de l'album Music from Source par donc David Admalek Sextet, paru sur le label Plus Loin. C'était donc le thème, le Livre des Rois. On va se quitter avec un dernier titre, un dernier album de ce label Plus Loin Musique avec une nouveauté. C'est la chanteuse Kelly Lee Evans, accompagnée à la guitare par Martin Sewell. Il y aura donc François Moutin à la basse et Dédé Ceccarelli, André Ceccarelli à la batterie. Pour cette composition, donc évidemment, de Gershwin, I Love You Porgy.
I love you Porgy, don't let them take me. Let them handle me and drive me mad. If you can keep me, I want to stay here with you forever. I'd be so glad. Someday I know he's coming back to call on me. He's gonna handle me and hold me so. It's gonna be like dying Porgy deep inside. Take me. Don't let him handle me with his high hands. If you can keep me, I want to stay here with you forever.
C'est donc sur cette très belle voix, celle de la chanteuse Kelly Lee Evans, que nous allons nous quitter avec ce I Love You Porgy, extrait de l'album Nina. Suivra après cette émission donc la programmation habituelle, c'est-à-dire Jacques Bonnet qui vous présentera donc la programmation des salles rock de l'Antirouille et du Mojomatic, suivi d'une intervention également de Jacques Bonnet qui recevra dans une émission juste après Greg, le guitariste des Marvins. Quant à moi, je vous retrouve demain pour une nouvelle émission de Par ici des sorties. Émission, comme je vous l'avais indiqué, totalement latino et latina, puisque je serai en présence donc de Jessica Mendoza para la canción latina.